Je suis revenu l'été précédent, après 10 ans passés dans des établissements à l'étranger. Mais les plus belles choses ont une fin. Mes contrats sont arrivés à échéance, j'ai dû rentrer chez moi, retrouver la famille et les amis que je n'avais plus envie de voir, à l'exception de Catalina dont l'inaccessible nudité n'a jamais cessé de hanter mes rêves douloureux. J'ai repris mon poste dans ce lycée où j'ai suivi ma scolarité et commencé ma carrière, que je déteste. Et alors que pendant toute la durée de mon absence, il me semblait n'avoir jamais réellement vécu ici, mon retour a transformé ces 10 années en une brève parenthèse onirique, un mirage plein de fantômes, de mensonges et de parfums éphémères, et c'est comme si je n'étais au fond jamais parti. En apprenant qu'Alexandre rentrait en terminale, j'ai été exposé la situation au proviseur en lui demandant de ne pas affecter mon cousin dans l'une de mes classes. Mais ce connard fraîchement nommé a aussitôt bondi sur l'occasion que je lui offrais de démontrer son autorité à mes dépens et il s'est donc fait un plaisir de m'envoyer paître au nom des principes de la République, qu'on peut, comme chacun sait, évoquer efficacement pour à peu près n'importe quoi. J'ai prévenu Alexandre que je ne tolérerais pas la moindre familiarité et sanctionnerais sévèrement tout dérapage. Il ne s'est donc adressé à moi dans l'enceinte du lycée qu'en m'appelant monsieur. Je dois le reconnaître. Il était nul, d'une incroyable inculture, à la limite de l'analphabétisme, mais poli. Et, sans le braquage, j'avoue que je n'aurais pas eu à me plaindre de lui davantage que de la grande majorité de mes élèves. En temps normal, dès la fin du mois de mai, les terminales ne mettent plus les pieds au lycée, soi-disant pour réviser. Je n'ai jamais manqué d'encourager discrètement cette pratique en vantant l'efficacité des révisions précoces et de la concentration solitaire. Malheureusement, la surveillance électronique impose à Alexandre une stricte obligation d'assiduité et donc, par un fâcheux contre-coup, me l'impose également alors que je n'ai rien à me reprocher et ne mérite certes pas de subir une telle punition. Car il s'agit plusieurs heures par semaine de rester assis, face à face, sans aucune échappatoire, dans une salle humide et chaude qui semble située aux confins de quelques cercles oubliés de l'enfer, ou qui s'y trouve peut-être réellement. Au début, j'ai bien essayé de lui faire court, ne serait-ce que pour passer le temps. Mais il me fixait de ses yeux suppliants de chien battu sans comprendre un mot de ce que je racontais, et j'ai vite renoncé. Alors on ne fait plus rien. On attend. Je n'arrive même pas à lire. Je regarde Alexandre qui fixe le plafond d'un air prodigieusement stupide, affalé sur sa chaise, en bermuda, t-shirt et casquette Lacoste, car il semblait que, pendant mon absence, l'ensemble de la population mâle âgée de 15 à 20 ans ait fait le choix unanime de l'abomination esthétique en plébiscitant ce genre de couvre-chef. Il porte le bracelet électronique à la cheville gauche, juste au-dessus d'une soquette blanche. J'ai envie de le gifler. Je regarde maman. Je regarde par la fenêtre. Dans la rue en contrebas, le petit train touristique avance à 20 à l'heure. S'y entassent des débiles. Car comment qualifier des adultes qui acceptent en toute connaissance de cause de prendre place dans ce véhicule du déshonneur et de la honte? Débiles, donc, auquel une voix féminine annonce en 3 langues par le haut-parleur qu'il passe devant le lycée, bien que ce soit là une information dénuée du moindre soupçon d'intérêt. Quoi qu'elle en dise long sur la richesse de notre patrimoine architectural, ils prennent des photos et font joyeusement coucou à des élèves qui discutent sur le trottoir en fumant et leur répondent en pointant dans un bel ensemble leur majeur dressé vers le train. Et il reste encore 10 jours avant la première épreuve du bac qui me rendra ma liberté. « Monsieur, » demande-t-il, « si on sortait prendre un café en bord de mer, personne ne s'en rendra compte ?» Il pose la question à chaque fois. J'ai beau lui dire qu'il ne peut pas prendre le risque de retourner en prison pour le plaisir de boire un café, rien n'y fait. Et à chaque fois, il m'appelle « Monsieur », quoique je l'en ai explicitement dispensé puisque nous sommes seuls et que nous ne devons plus jouer cette comédie pour personne. Et je lui en veux terriblement de gâcher pour moi la fin du printemps, d'essayer bêtement de m'amadouer en s'obstinant à m'appeler « Monsieur » alors que je l'ai vu naître et grandir, que je l'ai même consolé une fois après une chute à vélo. Je lui en veux de porter ces bermudas grotesques dont je soupçonne qu'ils n'ont pas pour fonction de l'aider à supporter la chaleur, mais seulement de rendre visible le bracelet ornant sa cheville, qu'il exhibe afin que tout le monde le prenne pour Tony Montana et l'admire. Je lui en veux de déambuler comme un seigneur dans les couloirs et dans la cour, et des filles qui lui sourient, et j'ai envie de lui faire du mal. Je lui dis qu'il a tort de se prendre pour un voyou, et tort d'en être fier, non seulement parce qu'il n'y a pas de quoi être fier quand on a tabassé un vieillard sans défense, mais parce qu'il n'est même pas capable de faire un voyou crédible, il n'est capable de rien, il rate misérablement tout ce qu'il entreprend, transforme en farce pitoyable et il n'est bon qu'à tourmenter sa mère.